RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Roulez, roulez, petit bolide. Si vous êtes déjà monté sur un vélo, avez-vous réussi à atteindre un jour la vitesse de 53 km/h sur le plat? Juste l'atteindre, hein? Non? Eh bien, les coureurs du Tour, eux, l'ont tenu cette vitesse pendant toute la première heure. À l'arrivée, lancé comme un frelon, c'est le Norvégien Søren Wangsholt qui s'est imposé. Et on a assisté à l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France avec 51 km/h de moyenne. Des records qui tombent et des sprinteurs qui se partagent le gâteau. Pour en parler autour de la table de l'After Tour, nos consultants, les Jérôme Coppel et Pinot, Richard Virenque et notre arbitre Christophe Cessieux, que nous retrouverons dans quelques instants. On aura aussi une large pensée pour Julien Alaphilippe qui a de nouveau montré le bout de son nez aujourd'hui mais qui semble traîner sa misère. Loulou devait-il faire le tour? C'est la question que nous nous poserons avant que les auditeurs posent les leurs à nos spécialistes en fin d'émission. C'est l'After à 9h, que du bonheur, et on revit tout de suite à grande vitesse l'étape du jour.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France. La 11e étape aujourd'hui, le peloton vient de s'élancer de Vichy à destination de Nevers. C'est une étape de transition après avoir passé quelques jours dans le Massif central et auparavant dans le sud-ouest. On prend la direction, une longue transversale qui nous amènera au Markstein dans les Vosges samedi.
À noter que la présence de Julien Alaphilippe n'est pas si étonnante que cela, tu l'as dit tout à l'heure?
Six étonnantes? Non, je ne l'ai pas dit.
Six étonnantes.
Eh bien, quatre hommes en tête avec 1 minute 16 d'avance, et notamment les deux Français, Mathis Lebert et Julien Alaphilippe. Il reste 114 km à parcourir dans cette étape.
À 38 km de l'arrivée, et au moment de la deuxième difficulté, la côte de Billy-Chevannes, eh bien, Julien Alaphilippe est allé prendre une musette. Mais il n'a pas pris la roue de ses camarades devant, il est lâché. Ils ne sont plus que trois avec le Français Mathis Lebert, le Danois Anton Charmig et le Portugais Nelson Oliveira. Ces trois hommes comptent 1 minute 5 d'avance sur le peloton. C'est terminé pour les hommes de tête à 6 km de l'arrivée. Ils sont rattrapés à l'instant et notamment par l'équipe Decathlon CMA CGM. À gauche, à droite, et finalement c'est Olaf Koy qui est déjà parti sur la droite de la route. Mais c'est son lanceur.
C'est Kessbol,
et peut-être que Kessbol va aller jusqu'au bout. Il se retourne, non, voilà, il se relève, il n'y a personne dans sa roue, il n'est pas là, Olaf Koy. Et Wangsholt, lui, est en bonne position. Attention au retour de Jasper Philipsen, il va vite. Jasper Philipsen, est-ce qu'il va réussir à passer? Il est dans l'aspiration, c'est gagné. Wangsholt qui s'impose alors qu'il était à la voiture médicale en début d'étape. Et bien, c'était la grosse cote. Wangsholt, vainqueur à 9h.
Et oui, Søren Wangsholt, le Norvégien qui a rafraîchi tout le monde puisqu'il fait encore chaud à Nevers, ici dans notre camion studio à l'arrivée. Une arrivée au sprint, on s'y attendait. Et on va débriefer tout ça avec nos consultants, avec toi Christophe Cessieux. Bonsoir Christophe.
Bonsoir la compagnie, comment ça va?
Ça va très très bien. C'est vrai que quand on est arrivé sur place à mi-journée, on trouvait que l'air était frais, c'était agréable. Mais Jérôme Pinot, Jérôme Coppel, finalement ça s'est bien réchauffé avec l'après-midi. Bonjour Jérôme.
Bonsoir Pierre et vous, il s'est bien réchauffé, il fait bon maintenant.
À tel point Jérôme Pinot que tu as fait tomber la veste.
Bah c'est surtout que tu m'as pris ma place parce que c'est un petit moteur, de breton, et il faut de l'ombre pour le breton. Donc j'ai pris ta place
chaud,
au soleil.
Oui,
quand tu es affûté, tu peux te permettre de te mettre au soleil.
Bien sûr, il y en a un qui est affûté, c'est Richard Virenque. Bonjour Richard, ça va bien?
Bonsoir à tous. Oui, ça va, tranquille.
Et il fait chaud ici à Nevers, on a retrouvé les chaleurs caniculaires de ces derniers jours. Et on a vu surtout, et ça sera un peu la première thématique de notre émission et de notre after tour, cette vitesse assez affolante. Alors on se consacre d'abord au sprint et non pas à la vitesse moyenne, mais on a vu un garçon s'imposer, donc Søren Wangsholt. C'est vrai que dans tes pronostics, Richard, tu avais tendance à dire il y en a un qui commence à s'imposer et ça va continuer très certainement parce que c'est souvent comme ça sur le Tour de France. Et en fait, ça se partage les victoires. Søren Wangsholt, on ne l'attendait pas forcément, mais c'est vrai que le sprint était un peu particulier aujourd'hui.
Oui, le sprint, il a anticipé. Il y a eu un peu, on va dire, des malentendus à l'avant. Pourtant, les sprinteurs étaient tous là et forcément quand un équipier est là pour travailler pour l'autre, il faut avoir un temps de réaction, ils ne l'ont pas eu et il y en a un qui était plus malin que les autres et a coiffé la victoire. Bon, ça s'est joué à pas grand chose hein, avec les sprinteurs.
Ouais.
Ouais, exactement, mais c'est vrai qu'après Coy et Merlier, donc Waring Schultz qui s'impose, Philippe Sen, lui, n'y arrive toujours pas. D'ailleurs, Jérôme Coppel, il y a eu des petits bouleversements dans, dans les minutes qui ont suivi l'arrivée. Puisqu'il a été déclassé, finalement, il a été
reclassé. Exactement, donc il a pris la troisième place, Philippe Sen, déclassé pour un contact avec un coureur de pique-nique, et finalement, j'imagine qu'il y a eu réclamation, elle a été reclassée. C'est vrai qu'il y a eu quand même une vague, là, c'était dans le virage sur la droite, il y a une vague qui est partie sur la gauche, lui, il a suivi la vague, il s'est appuyé sur le coureur de pique-nique, déclassé dans un premier temps, c'est pas le sprinter qui a non plus la plus belle des réputations, Philippe Sen, donc il paye peut-être un petit peu ça, mais là, elle a été reclassée. Je trouvais le déclassement un peu dur, personnellement.
Oui, il y a une vague, mais avec cette arrivée vraiment en courbe, la courbe sur la droite, c'est difficile de ne pas se déporter à forte vitesse, puisqu'on est là, on frôle les 65-66 km/h.
Et lui, il se fait toucher en premier.
Oui, donc ça décale évidemment tout le monde. Sa réputation de mauvais garçon ne doit pas lui coûter à chaque fois qu'il fait un mouvement, un déclassement. Il a effectivement touché un pique-nique. Mais il n'est pas venu le bousculer, il n'a pas de geste irrégulier. Et dans ce sprint, il y a aussi eu un geste irrégulier de Milan Fretin qui a un peu poussé Olaf Coy pour les lancer son sprint. Normalement, on n'a pas le droit de lâcher la main. Bon, ils ne l'ont pas déclassé non plus.
En attendant, il n'y arrive toujours pas, Jasper Philipsen.
Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, qui frotte pas. Là, il a été emmené à peu près comme il faut pour ce sprint-là, avec Mathieu Van Der Poel qui l'a placé comme il le fait d'habitude. On n'a pas pu le lancer, en revanche. On a un peu bouchonné là, aux 400-500 mètres. Il a dû retrouver sa place seul. Et puis, ce mouvement de peloton vers la gauche, à cause de cette courbe à droite, a ouvert la porte à Waring Schultz, qui a bien anticipé.
Christophe, même si je pense que dans cette équipe, il n'y a peut-être pas d'éclat de voix, mais quand on connaît la puissance de Mathieu Van Der Poel, la capacité à emmener, il doit être, le Néerlandais, il doit être un peu frustré quand même que son sprinter derrière n'y arrive pas.
Oui, c'est vrai qu'il travaille énormément pour Philippe Sen depuis le début de ce tour. Heureusement pour Mathieu Van Der Poel, il est allé chercher sa victoire personnelle l'autre jour à Ussel, donc je pense que ça a dû calmer sa mauvaise humeur. Mais depuis, il s'est remis au travail pour Philippe Sen, même si on l'a vu en début d'étape tenter de prendre l'échappée. Il n'y est pas parvenu cette fois-ci. Donc il a dû travailler pour Philippe Sen qui, pour l'instant, n'y arrive pas, effectivement.
Et puis Mathieu Van Der Poel, on peut aussi nous se contredire parce qu'on a dit, oui, sa victoire à lui, elle va libérer l'équipe et elle va peut-être libérer Philippe Sen. Mais quelque part, Mathieu Van Der Poel, c'est pas un amoureux du Tour de France. Il vient sur le Tour parce que son sponsor et parce qu'il est leader de son équipe, il vient, il a gagné. Donc un sprint comme aujourd'hui, on n'enlèvera pas l'idée que s'il faut prendre le petit risque avant la victoire de l'équipe pour soulager l'équipe, il aurait peut-être pris. Aujourd'hui, il n'avait peut-être pas envie de prendre tous les risques.
Peut-être arrêter de dire il n'aime pas le Tour de France. C'est le premier à attaquer ce matin.
Oui, mais il aime la course. Mais le Tour en lui-même, ce n'est pas un objectif. Il aime gagner, donc il sait qu'il ne peut pas gagner à chaque fois. Et il l'a dit lui-même, il le dit, le Tour, ça n'a jamais été l'objectif principal de ma carrière.
Non, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de Mathieu Van Der Poel ou pas Mathieu Van Der Poel, parce que finalement, il n'y a pas eu de lead-out. Il y a eu ce moment de temporisation à 250 mètres de la ligne. C'est ça qui coûte la victoire, soit à Coy, soit à Philippe Sen. Et c'est ça qui permet à Waring Schultz, par contre, d'aller la chercher. Donc Mathieu Van Der Poel, lui, il a fait le travail parfait. Il a replacé Philippe Sen dans la roue d'Olaf Coy, et c'était ce qu'il fallait faire. Mais après, la désorganisation avec Jasper Stuyven quand il s'écarte de la roue de Kisbol, là, c'est plus Olaf Coy qui fait la faute et qui empêche peut-être Philippe Sen d'aller gagner. Parce que, en fait, Coy, il fait double erreur. C'est d'une, il ne suit pas son poisson pilote. Et deux, il ne lance pas le sprint quand il voit passer Waring Schultz. Et Waring Schultz passe plus vite. Là, il n'y va pas. Il a un temps d'hésitation. C'est là où Milan Fretin le touche pour lui dire mais il faut y aller. C'est le moment. Et là, c'est les 10 mètres que Waring Schultz prend là, et ça suffit pour aller gagner.
On va y revenir, effectivement, du côté de chez Decathlon CMA-CGM avec Léna Marjac dans quelques minutes. Mais Richard, bien qu'elle est épatante quand même, cette équipe UnoX Mobility, on les voit beaucoup. Alors peut-être que celui qu'on a vu par le passé, on le voit un peu moins, c'est Magnus Cort Nielsen dans cette équipe, mais il y a Johannessen, il y a eu Trenn également, là il y a une victoire de Waring Schultz, ils ont le combatif du jour, ça veut dire qu'ils ont tenté aussi le coup de l'échapper. C'est une équipe qui est vraiment... monte en puissance.
Oui, elle a aussi le vent en poupe, elle a le facteur chance qui est là. Il en faut dans le Tour de France, on le voit avec l'échappée où il a pris le maillot jaune. Donc il faut avoir cette baraka dans le Tour. Et là, je crois qu'il surfe un peu sur ça, parce que là aussi, à l'arrivée, il fallait avoir ce côté chance où le coureur ose, il faut être là aussi devant. Et je crois qu'elle est, c'est une équipe qui a ce déclic-là que les autres n'ont pas. Il y a certains qui l'ont pas et il faut en profiter parce que ils sont pas tous récompensés, les équipes. Quand là on commence à faire le compte, ça fait 10 jours qu'on est parti. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas gagné. Donc là, il y en a certains, ils sont en train de passer à travers le tour et ça devient compliqué pour certains.
Et cette équipe Uno X, elle prouve aussi une chose, c'est qu'on peut être dans les échappées et gagner au sprint. Ça prouve qu'on peut avoir un garçon qui fait toute la journée devant et on n'a pas besoin d'un dispositif de 7 garçons. D'ailleurs, il y a Train qui est rentré à la maison autour du sprinter. Ça peut donner des idées pour demain.
Le vainqueur du Het Nieuwsblad 2025 a trouvé d'ailleurs que la victoire d'aujourd'hui ressemblait un petit peu à celle de l'an passé avec une porte qui s'est ouverte pour lui. On l'écoute, Søren Waringshold.
C'est assez irréel, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews. Ça me rappelle ma victoire sur Home Loop. J'étais très loin derrière, puis d'un coup, je me suis retrouvé devant. Et à l'instant d'après, je sprintais pour la victoire. Alors oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment agréable d'arriver au paradis. Honnêtement, je ne pensais pas y parvenir. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est un contraste énorme avec la journée d'hier.
Ça fait penser à l'expression des rugbymen qui arrivent au paradis quand ils mettent les selles aussi derrière la ligne. C'était le paradis. Donc la victoire de cette équipe Uno X. Léna Marjac, tu es en notre compagnie, au plus près de l'équipe Décathlon CMA-CGM. Là, y a eu, c'est étonnant parce qu'on a vécu un peu la scène d'hier avec un coéquipier qui prend un peu trop d'avance dans le sprint, ce que tu expliquais tout à l'heure, Jérôme Coppel, en référence là à Nicolas Prodhomme hier avec Paul Seixas. Léna, quelles étaient les explications sur cet échec ce soir pour Olaf Coy?
C'est vrai qu'on a vu les images et même juste une petite photo du bus. C'est que quand il s'est passé ça, même le public, certains se sont dit c'est Kessbol qui va partir pour la victoire.
J'ai cru, moi, en direct.
Effectivement, et même c'est la réaction du public au bus. Et finalement, c'est vrai, est-ce que c'était voulu, pas voulu? On a rencontré Marc Renshaw, le directeur sportif qui a intégré l'équipe cette saison justement pour toute la partie sprint. Marc Renshaw, que vous connaissez évidemment bien, qui a été le grand poisson pilote de Mark Cavendish, qui a été connu aussi en 2010 pour les coups de tête sur le tour exclu. Et il n'a pas voulu donner trop de raisons à ça. Justement, il a très vite laissé sur le côté. Il a plutôt préféré de parler de Olaf Coy. Écoutez.
Vraiment, Olaf est le genre pour gagner aujourd'hui. Ça, c'est la belle chose avec le sprint. Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Warren Scott, aujourd'hui, il est très, très fort. Il a fait le timing perfect. Il a lancé son sprint de loin et il gagne. Chapeau à lui et UnoX. Pour nous, il y a encore une chance demain. On a regardé le final aujourd'hui et demain, c'est notre course.
Donc voilà, je pense qu'ils vont analyser un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils n'ont pas remis la faute sur l'un ou sur l'autre. Et demain reste, du coup, comme il l'a dit, Marc Renshaw, une nouvelle étape de sprint et une nouvelle opportunité pour Décathlon CMA-CGM d'aller chercher une deuxième victoire peut-être sur ce Tour de France.
Et une nouvelle journée pour Paul Seixas pour être un peu à l'abri dans le peloton, aller faire un petit peu de rouleau à l'arrivée, signer quelques autographes, quoi. C'est le programme pour la journée de demain.
Et toujours, voilà, quand c'est des étapes comme ça, un peu de repos, entre guillemets, pour lui, c'est vrai qu'il est à l'abri dans le peloton avec ses coéquipiers. Puis quand il arrive au bus, c'est toujours la même routine. Il monte d'abord dans le bus, il ressort pour être avec son masque, toujours le masque, pour faire un petit peu de home trainer. Alors là, il enlève évidemment quand il fait les efforts et puis il le remet, le masque, pour aller signer des autographes. Et ce soir, c'est vrai qu'il en a signé pendant un long moment. Il a fait beaucoup de jeunes enfants qui étaient très contents.
Jérôme Pinault, alors tu n'as pas été dans l'équipe de Marc Renshaw?
Non.
Mais tu étais avec Marc Cavendish. Et quand il se passe un sprint comme ça, où ça ne fonctionne pas comme c'est prévu, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme au foot, on va faire de la vidéo, on va regarder ce qui s'est passé, on va débriefer dans le bus. C'est ce que tu faisais avec ton équipe?
Oui, déjà on laisse la colère, l'émotion retomber. Alors Brian Coquard n'était pas un très grand colérique, même si parfois il en piquait. Donc Marc, il fallait attendre une heure. Il fallait attendre qu'il insulte tout le monde, que sa colère redescende. Et puis après, oui, effectivement, les directeurs sportifs et Marc Cavendish avaient une séance de vidéo pour débriefer ce qui s'est mal passé. Mais encore une fois, on peut faire toutes les séances de vidéo. C'est passé. Il ne faut pas réitérer les mêmes erreurs. Mais dans le sprint, il faut avoir un dispositif, il faut avoir de la force et il faut avoir le parfait timing. Et c'est très rare dans le Tour de France, notamment, que tout soit parfaitement aligné. En revanche, aujourd'hui, avec
une équipe qui serait dominatrice dans le sprint, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de hiérarchie vraiment établie, avec une grande équipe de l'époque autour de Mark Cavendish, l'équipe Quick-Step ou l'équipe HTC aurait pris la corde à droite, et je peux vous dire que l'Anglais l'aurait gagné facilement, parce que en plus d'avoir emmené à très haute vitesse son sprinter, quand tu t'écartes à gauche, donc t'emmènes les autres avec, donc il aurait gagné facilement. Mais là, il n'y a pas eu ce sprint-là, on n'a pas pu prendre en main ce sprint, et donc c'était un peu le bazar.
Mais n'oublions pas qu'Olaf Coy fait son premier Tour de France aussi, parce que le même sprint, dans n'importe quelle autre course, il lance, c'est lui qui bouche le trou sur Caseball quand Stuyven s'écarte. Là, il y a tellement de pression pour aller gagner une deuxième étape, alors qu'il en a déjà gagné une, la pression elle devrait être un peu enlevée, mais il veut tellement bien faire, tellement gagner une deuxième étape, qu'il a peur de lancer trop tôt, et finalement, tu dis de parler de timing, ben, il ne veut pas lancer trop tôt, et quand il lance, c'est trop tard, et tu as perdu la course. Une autre course, il aurait gagné 10 fois cette étape, parce que c'était le plus rapide.
Et justement, là, l'équipe Decathlon CMA CGN vient de communiquer la réaction de Olaf Coy qu'on n'a pas croisé au bus. C'est une réaction écrite à l'instant. Et il dit: quand Caseball a lancé le sprint, je voulais laisser passer quelqu'un entre lui et moi. Lorsque j'ai vu l'écart qu'il avait créé, j'ai hésité un peu trop longtemps et j'ai manqué ma chance. Nous aurons une nouvelle opportunité demain. Voilà les propos donc, de Olaf Coy à l'issue de cette étape.
Oui, c'est vrai qu'il y en a une dernière. Il y en aura peut-être une ultime sur les Champs-Élysées, mais les sprinteurs, là, ils vont la vouloir, celle de demain, c'est certain. Richard, c'était pas forcément à l'époque très utilisé, la vidéo, même très peu, j'imagine, dans le débriefing. Alors surtout pas sur des étapes de montagne, mais on voit que ça prend une place dans tous les sports aujourd'hui, est beaucoup plus importante. Tu penses que ça serait un bon moyen pour demain aussi de re-regarder dans toutes les équipes ce qui s'est passé ce soir pour les sprinteurs?
Oui, en tout cas, moi, pour répondre à la question, à mon époque, non, on n'avait pas les vidéos, tout ce qui existe maintenant, ces outils-là, on ne les avait pas, même si on avait quand même le téléphone, hein, pour vous rassurer, hein, la télé, elle est en couleur aussi, hein, donc attention, hein, donc c'est pas si loin que ça. Hein. Mais pour vous dire, les reconnaissances, les sprinteurs, maintenant, ils utilisent tous les outils qui peuvent exister pour les équipiers, parce que le travail, c'est surtout des équipiers, parce que le sprinter, lui, quelque part, il a quasiment les yeux fermés derrière, là, et il suit. Et à un moment donné, quand il regarde les panneaux, il sait qu'il sort à 200 mètres, ou il sait qu'il se cale dans la roue d'un tel, parce qu'il y a un duel aussi avec les sprinteurs. Hein. C'est que Olaf Coy aime bien être dans la roue d'un tel, un tel aime bien être dans la roue d'un tel, donc il faut prendre la roue. Donc c'est aussi un côté où un marquage, mais aussi un côté où il y a un duel. Parce que c'est comme ça, hein, les sprinteurs, il y a un duel pour prendre la roue d'un tel, un tel. Et là, c'est à celui qui a le plus gros caractère qui arrive à la prendre, parce que ça se fait pas juste comme ça. Attends, laisse-moi là. Non, ça le fait avec, on fonce sur l'adversaire, on lui fait peur, on prend la roue de l'autre. Et des fois, ça se touche un peu. Bon, avant, c'était encore plus chaud, parce qu'il y en a qui levaient les mains du guidon, ou ils mettaient des coups de tête. Donc voilà. Donc maintenant, c'est beaucoup plus classe. Mais il y a quand même ce côté de, on va dire, assez méchant du sprinter qui est là à l'avant et il veut tout prix gagner. Il a peur de rien, parce que quand vous n'êtes pas sprinter, nous, des fois, on s'amusait à mener. Ben, moi, je menais des coureurs à l'avant pour faire leur sprint. Mais dans les deux derniers kilomètres, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est des fous. Parce que ils sont mentalement, ils sont faits à part. C'est-à-dire, il ne faut vraiment pas avoir peur pour être dans ce noyau-là, dans le dernier kilomètre. J'ai été quelques fois, mais ce n'est pas ma place. Hein. On sent qu'on n'est pas à sa place et on ne peut faire que des erreurs et faire tomber. Donc voilà. Mais des fois, on est obligé, puisqu'on est là pour aider notre sprinter. Et donc nous, on prend le vent, l'autre, il est dans la roue et il attend qu'on lui pose à 100 mètres, 200 mètres, quoi.
Ouais, il y en a, on a vu, ils n'y allaient pas. Hein. Skelmoser, on ne l'a pas vu. Hein, pour Mats Pedersen, on ne va pas lui mettre un taquet tous les soirs. Mais on verra demain. On imagine.
Trek n'y est pas allé. Pas du tout. Oui. Lidl Trek a laissé Mats Pedersen se débrouiller tout seul.
Ouais. On verra, mais on peut imaginer, comme je le disais il y a un instant, que demain, ça soit encore une grosse, grosse bataille. Et l'échappée, ça va être compliqué. Et peut-être même que demain, on aura une configuration où personne ne va sortir.
Ah, je pense pas. Je pense qu'on verra quand même des coureurs, même si ils seront peut-être pas nombreux. Un peu comme aujourd'hui, je vois le scénario de, comme aujourd'hui. Même si l'étape est un peu plus vallonnée, il y a 400 mètres de dénivelé positif.
Sur le final.
En plus, voilà, sur le final, faudra regarder le vent demain, etc. Mais oui, les sprinteurs n'ont pas envie de laisser passer cette dernière chance. Mais on a vu que ça soit Slock l'autre jour, aujourd'hui ils étaient trois devant. Bah, finalement, ça va quand même loin. Il faut que toutes les équipes de sprinteurs aillent mettre un mec. On a vu Astana, on a vu Picnic Post-NL, on a vu Alpecin Première Tech à la fin, on a vu Quickstep aussi mettre un mec. Il faut quand même de la main d'œuvre pour aller chercher seulement entre guillemets trois coureurs. Et aujourd'hui, les trois coureurs, ils n'ont pas joué avec le peloton, 51 de moyenne. Ils ne se sont pas amusés, ils ont roulé à bloc du début à la fin. Donc il y a quand même de l'énergie encore. Donc attention, on ne doit pas se faire piéger. Par contre, pour conclure là-dessus, ce qui change avec Philipsen des autres années, c'est que Alpecin Première Tech ne prend pas le lead sur les sprints. Ils sont, vous avez vu aujourd'hui, Van Der Poel a placé Philipsen derrière Coy.
GG, ils font un peu ce que fait Soudal Quickstep à la perfection.
Ouais, mais
sauf, arrivé au dernier moment.
Sauf que Philipsen et Alpecin Première Tech ne sont pas Soudal Quickstep. À l'époque de Mark Cavendish, ça paraissait facile d'emmener un train de sprint. Ils arrivaient, dernier moment, boum, ils étaient tous calés et ça allait à la gagne. Mais c'est pas facile de faire ça. Et Philipsen n'est pas un coureur comme ça. Il aime bien être lancé, lui, le premier. Que ça soit lui qui déclenche le sprint en premier. Après, à être bien lancé et là ils se battent pour la route de l'Afcoy mais ça marche pas.
Demain, Christophe, c'est vraiment la copie conforme, l'étape?
Oui, c'est un tout petit peu plus dur. Il y a 400 mètres de dénivelé positif en plus. Il y aura 7 km de montée. Il y a une quatrième catégorie en plus par rapport à aujourd'hui. C'est un peu plus vallonné. Mais franchement, ça ressemble étrangement à ce qu'on a rencontré aujourd'hui. Et les conditions climatiques seront à peu près similaires à celles d'aujourd'hui.
On a chaud.
Des températures qui vont monter dans l'après-midi. Il y aura peut-être des orages en début de journée. Et ensuite, ce sera la même situation.
Pas trop de vent pour faire des,
non,
des bordures,
pas de vent. Pas de vent prévu, un petit peu en début de matinée, mais ensuite ça va disparaître. Non, c'est vraiment, on est sous l'anticyclone et donc ça ne devrait pas changer grand chose. Et puis ce sera la dernière occasion pour les sprinteurs de remporter une étape. Et là, tout le monde n'a pas été servi. Merlier, deux étapes, ok. Olaf Coy, une, et Warrington, une. Il y a quand même des garçons qui n'ont pas été servis. Il y a des équipes qui sont venues uniquement pour les sprints. Ça, si demain elles repartent, Fanny, je pense que ça va souffler dans les bronches quand même.
Ça part du circuit de Nevers demain,
exactement, du circuit de Nevers. Pour arriver à Chalon-sur-Saône, on aurait pu faire l'arrivée sur le circuit. Ouais. Mais on se souvient qu'une année, ça s'était. Alors, c'était à quel endroit? Je me rappelle. C'était.
Effectivement. Et d'ailleurs, il y avait eu une chute dans le virage. Parce qu'il y a eu l'huile qui restait.
Le revêtement est extraordinaire.
Oui. Je ne me souviens pas du lieu exact, mais c'est un circuit automobile près d'Albi.
C'était le
circuit de Nogaro. Exactement. C'est demain le circuit. Mais messieurs, on a battu un record aujourd'hui, l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France. Donc on a vécu un événement quand même. Entre Vichy et Nevers, on a roulé à 50,91 km/h de moyenne. Le record précédent datait de 1999 entre Laval et Blois, 50,356. Donc tout à l'heure, on avait Renaud Lavillenie en plateau qui nous parlait des records du monde centimètre par centimètre. Là, c'est pas du centimètre par centimètre, c'est énorme, Jérôme. C'est un demi-kilomètre heure de moyenne. Et là, je viens de dire qu'il n'y avait pas eu de vent. Comment vous expliquez ça?
Si, il n'y avait pas du vent à faire des bords.
Non, mais ça n'a pas aidé beaucoup.
Non. Ben si. Ça aide un petit peu.
Pour la moyenne, vaut mieux.
C'est quand même favorable.
Le parcours n'est pas une ligne droite.
Ouais. Oui, quoi
pour la moyenne, c'est mieux. Pour la moyenne, c'est préférable pour aller très vite d'avoir un léger vent qu'un gros vent, parce que s'il y a un gros vent, il y a tentative de bordure ou des moments de vent de face, on freine beaucoup.
Donc là, Richard, on était dans les conditions idéales pour que ça aille très très vite.
Totalement. Et c'est pour ça que hier aussi, l'étape, les coureurs ont fait du jus. Hein, c'est facile à dire. Bon, ceux qui sont dans leur canapé, ils ne comprennent pas comment on peut faire du jus à 40 et quelques de moyenne ou 50. Mais une étape comme hier, voilà. Et aujourd'hui, les coureurs, forcément, ont roulé très vite parce que les conditions climatiques étaient idéales. La route, le revêtement. Le revêtement, il était magnifique et le vent et elle n'était pas si longue que ça, hein, l'étape, hein, donc tout ça a favorisé et les échappés au début, les échappés qui ont favorisé ce record. Mais on va dire c'est le hasard, hein, qui bat un record. Ils veulent pas, on part pas au départ pour dire allez tous les coureurs, on va battre le record aujourd'hui, hein. C'est les conditions de course qui font à la fin on vient de battre le grand record. Parce que si à un moment donné le peloton se dit aujourd'hui on va faire péter un record, on peut l'exploser, hein, parce qu'ils le feront le jour où il y a un vent favorable. Et si tout le peloton s'y met, le record sera vraiment battu. Bon, c'est pour ça qu'il faut. C'est un amalgame, hein, de se dire ah, ils ont battu un record, qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, comme Pogacar, comme il a monté, on va dire, le col, le Tourmalet. Pourquoi ? Parce qu'au pied du Tourmalet, il y a eu un super train à fond et le vent était favorable. Et c'est un boulevard, le pied du Tourmalet. Donc, tout explique que quand vent favorable, tout ça, on est poussé et on peut monter plus vite et on peut battre un record.
Et les records, ils tombent en revanche sur les monuments, hein, parce que quasiment tous les ans, on bat les records sur les Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, les Tours des Flandres. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre 27 ans pour que le record de l'étape la plus rapide courue sur le Tour de France tombe. On rappelle que c'est Cipollini en 99 qui avait remporté cette étape, qui tenait le record depuis.
Oui, mais dans ce qu'on explique là, Jérôme Coppel, tu sais très bien ce qui va se passer, on va dire. Ils vont à 5. Près de 51 km/h de moyenne. Il y a des gens qui vont se dire bon, c'est pas tout à fait naturel. Il y a quand même des éléments qu'on doit préciser. Vous l'avez dit pour le vent, le matériel, le revêtement sont quand même des éléments.
Ça, non, c'est pas le lait.
Ouais, non, mais alors, je vais donner les arguments. Quoi que je dise, les gens qui pensent ça continueront à penser ce qu'ils pensent. Je veux dire, c'est pas les arguments qu'on va donner là qui vont les faire changer d'avis. Mais c'est un fait que le niveau global de tous les coureurs a augmenté. Le Tour, nous, c'est plus du tout le niveau du Tour de France qu'on a connu. D'ailleurs, on prend souvent Pogacar a battu le record d'Otakam ou de je sais pas quoi. C'est pas le seul qui a battu le record, mais on prend toujours celui qui gagne, le même. Mais il y en a peut-être 10 qui ont battu le record derrière. Première chose, le matériel, c'est pas les vélos de Cipollini à l'époque quand il avait le record de vitesse. Les vélos maintenant, t'as les vélos aéro, t'as les roues, on parle de la nutrition, on parle de la récupération, etc. Tout ça mis bout à bout fait que le niveau global des coureurs professionnels est beaucoup plus haut, ne serait-ce qu'il y a 10 ans déjà. Le revêtement, bien sûr, on parle du revêtement. On va passer bientôt chez moi en Haute-Savoie, dans mon village natal. Ça fait 25 ans que la route, elle n'a jamais été refaite, qu'il y a des nids de poules plus grands que ma voiture.
Résultat,
le tour
vient,
l'enrobé est nickel et parfait. Bah, même moi qui suis redevenu nul en vélo, quand je vais rouler, je vais plus vite qu'avant. Bah, c'est ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage, je ne dis pas qu'il n'y a pas de triche, j'en sais rien. Et on doit garder les yeux ouverts. Maintenant, il y a aussi des choses qui expliquent que ça va plus vite aussi. Je veux dire, on en parlait de Lidl Trek, etc. À notre époque, on était 9 coureurs, un de plus, et on avait 20-25 personnes du staff maximum. Maintenant, il y a 50 personnes dans le staff, il y a 2 bus, il y a des camions cuisine, les coureurs mangent dans les cuisines, il y a des climatisations, on nettoie les chambres d'hôtel, les matelas, etc. Bah, tous ces petits pourcentages mis bout à bout, ouais, j'aime pas dire ça parce que ça vient de la Sky, etc. Mais voilà, tout ça mis bout à bout fait que ça va plus vite.
Il y a des arguments qui sont irrévocables et très net en termes de science et d'études sur le matériel. Aujourd'hui, on vend un vélo dans un magasin à un client en lui disant ce vélo-là, avec cette amélioration sur l'avant, le nez de l'avant des vélos de coureurs Soudal Quickstep a évolué, le hauban arrière, on l'a remodifié et on va gagner tant de watts à la même vitesse. C'est-à-dire que pour la même vitesse, donc une vitesse à 35 km/h, vous avez besoin de 15, 12, 10 watts. Donc les coureurs qui font une course, eux, ils émettent ces 12 watts. Donc la vitesse augmente. Et vous savez quoi ? Quand on fait des tests, on teste les vélos avec des conditions vent dans le dos de 15 km/h. Vent dans le dos à 15 km/h. Quand on a un vent portant à 15 km/h sur le plat, aujourd'hui, avec un vélo type la marque américaine qu'utilise les Soudal Quickstep, on gagne 9 km/h avec la même force que le vélo précédent. Imaginez déjà avec des vélos très haut de gamme. Alors évidemment, en 99, il n'y avait pas les mêmes vélos. Ce record, il est battu aujourd'hui parce qu'il y a les conditions idéales et aussi parce que la course va dans ce sens. Parce qu'il y a des équipes qui dominent tellement le Tour de France qu'aujourd'hui, il y a eu 40 prétendants à l'échappée. Pour aller dans l'échappée, on a fait départ arrêté, départ lancé quasiment à 25 à l'heure et au bout de 2 minutes, on était déjà à 50 à l'heure et ça a duré pendant une heure. Ça, on le voit que très rarement maintenant dans les étapes de plaine. C'est ce qui explique aujourd'hui tout ça mélangé. bat la vitesse record.
Mais qu'il y a quand même des garçons qui n'arrivent pas à suivre. On en parlera dans un instant avec Julien Alaphilippe qui était à l'avant, qui a fini à l'arrière. Ça nous rend bien triste. On fait une petite pause. On évoquera aussi les changements de calendrier qu'il faudra un jour opérer sur le Tour de France. Tadej Pogacar en a parlé. On va en discuter avec vous, messieurs et dames, puisque Maria Azé nous a rejoint dans quelques instants. On évoque avec elle notamment le parcours de Julien Alaphilippe, délicat cette année sur le Tour de France 2026. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Allez, on se calme dans le studio. Je sens bien là que vous êtes très énervé par tous ces différents débats. On va se reconcentrer, messieurs Pinot, Coppel, Virenque et monsieur Cessieux. On va se concentrer sur notre thématique. Et on va commencer, tiens, avec toi, Maria, avec un Julien Alaphilippe qu'on a vu, que tu as vu, puisque tu étais avec cet échappé sur la moto RMC. Ça nous a fait plaisir de le voir à l'avant. Il avait tenté quelques petites choses ces derniers jours. Malheureusement, ça a fait pchit et ça nous rend triste.
Tout à fait, Pierre-Yves. Oui, ça fait plusieurs jours qu'on attend de voir Julien Alaphilippe à l'avant. Il a tenté des choses, pas forcément de la bonne manière non plus, Julien Alaphilippe. Et là, aujourd'hui, on s'est dit, ça y est, ça passe. Il part dans une échappée avec quatre coureurs, dont Mathis Lebert. Il fait près de 100 km avec cette échappée. Donc voilà, on se dit pourquoi pas pour Julien Alaphilippe, même si on savait que c'était une étape de sprint et que ça allait être très compliqué. Mais alors qu'il avait encore avec ses trois compères, il lâche tout d'un coup, il va chercher une musette et jamais il ne va remonter avec cette échappée. Donc là, on se dit, ça y est, c'est vraiment le début de la fin pour Julien Alaphilippe. Et lui, il le dit lui-même, ce serait une histoire de chaleur. On l'écoute.
Fallait tenter le coup et... Ça a roulé très vite toute la journée. Je me sentais vraiment bien au départ et puis après il a commencé à faire plus chaud et j'ai tout de suite eu le sentiment, les sensations que j'ai eues les derniers jours, c'est-à-dire pas superbe et ouais, c'est comme ça.
Il fallait attaquer, il fallait
pas forcément, mais il tente rien à rien.
Julien, c'était l'étape en ligne la plus rapide de l'histoire du tour, quasiment 51 km/h.
Ouais, j'ai bien senti.
Je l'ai bien senti, bah oui, évidemment, il a bien vu que ça allait vite, Maria, et qu'il ne pouvait pas suivre.
Oui, au final, il termine, alors il y a pas suivre et pas suivre, parce qu'il n'y a pas suivre et terminer dans le peloton, voilà, là, il termine dernier à plus de 7 minutes 30 du vainqueur Warren Scholl, donc là, c'est même pas une défaite, il termine dernier, c'est vraiment très très compliqué pour Julien Alaphilippe, qui vit un début de tour vraiment, vraiment compliqué, alors qu'il a le soutien du public, hein. Je l'ai bien vu tout au long de la journée, on le voit le matin.
Plus que pour Paul Sexas.
Largement plus, des pancartes. En plus, il y a l'histoire d'Alain Philippe avec la Fédération Française de la Loose, donc il a encore plus de pancartes. Julien Alaphilippe, il y a le matin à la présentation des coureurs, c'est le coureur, je pense, qui fait vraiment partie des plus applaudis avec Pogacar. Paul Sexas, ça commence à arriver, évidemment, mais c'est vraiment la star du public, c'est le chouchou du public français, c'est impressionnant. Et voilà, il voulait un peu utiliser cet amour du public, on sent qu'il essaie d'en profiter quand même. Il est en fin de contrat l'année prochaine, ça se termine, donc son équipe voulait aussi l'a mis sur ce Tour de France pour le voir à l'avant et voilà.
Sauf et lui met un peu la pression quand même.
Bah lui met un peu la pression forcément pour qu'il se montre, hein. Il a un gros salaire chez Tudor, donc il faut évidemment qu'il leur rende et voilà. Lui il aimerait terminer sa carrière par une victoire d'étape sur le Tour de France, ce serait une bonne manière de terminer sa carrière, mais là on voit vraiment pas comment ça va être possible.
Richard, raconte-nous le lien que tu as avec ce coureur que la France adore, qui nous a fait rêver, qui nous a régalé avec ses nombreuses victoires, ses titres de champion du monde. Tu le connais bien ?
Oui, plutôt bien, oui. Ben, Julien, je le connais depuis qu'il est chez Quick-Step, donc il y a quelques années dans ses débuts. Et à un moment donné, dans sa carrière, au de ses débuts de sa carrière, il avait des problèmes de genoux, il n'était pas bien, tout ça. Mais avant qu'il soit maillot à peau, avant tout ça. Hein, et on a sympathisé et donc... tellement qu'on est devenus potes, donc on s'est entraîné ensemble. Moi j'avais arrêté ma carrière, hein, donc il est venu dans le Var et on a échangé beaucoup. Après je l'ai persuadé qu'il pouvait faire un maillot à poids. Il y avait que moi qui le croyais et donc je disais à Patrick Lefebvre, si il peut le faire, il peut le faire. Il faut qu'il s'entraîne comme ça. Bon, passons. Et il a tenté, il a réussi. Et après on était toujours en contact. Il a fait le maillot jaune, comme vous savez, champion du monde une fois, deux fois. Et après bon, il est rentré dans une vie de famille un peu plus sérieuse et on s'est un peu perdu de vue, mais Julien, je le connais très bien. Je pense que il lui manque, on va dire, du jus, parce qu'il en a beaucoup donné et là je sais pas si c'est la motivation ou si c'est qu'il a tellement été à l'avant, je sais pas, mais en tout cas il y a
pour moi, je pense qu'il y a un recadrage mental qu'il faudrait faire parce qu'il ne faut pas qu'il reste sur ça. On l'a vu en début de saison pour les classiques, il passe un peu à travers tout. Bon, il a eu de la malchance aussi, hein, mais je crois qu'il est sur un mauvais, voilà, sur une mauvaise énergie. Et bon, je ne suis pas assez près de lui pour comprendre les choses, mais je constate une chose, que c'est un grand champion. Et une autre chose, c'est qu'il peut, c'est une étincelle qu'il faut rallumer. Et on a bien des preuves dans le cyclisme moderne aujourd'hui et dans le cyclisme en général, que c'est pas parce qu'on a plus de 30 et quelques années qu'on est fini. Même si on a brillé, on va dire, assez jeune, on peut briller aussi à la fin. Toute une question, on va dire, mentale dans la tête et aussi de se remettre en question, une remise en question et d'avoir des pauses. Mais bon, c'est tout ce qui va autour, la vie de famille, la vie d'équipe et tout ça. Et tout ça cumulé, ben, à un moment donné, il faut savoir les mettre aux bonnes places et bien le gérer. Malheureusement pour Julien, voilà, mais bon, la France l'attend pleinement pour une belle victoire et je lui souhaite pleinement de là il a fait une étincelle, tout le monde s'enflamme, ouais. et je lui souhaite de le remettre encore une autre.
Ouais, on espère, effectivement. Jérôme Coppel, tu le connais bien, toi aussi, vous avez partagé des courses, des chambres.
Sélection nationale,
ouais. On l'aime bien aussi parce que c'est un personnage, il est rock'n'roll à sa façon, il est souriant, comme l'expliquait Maria, il a la cote. Forcément, ça rend triste un petit peu tout le monde. Est-ce qu'il devait venir sur ce Tour de France ? C'est ça peut-être aussi la question.
Est-ce qu'il devait maintenant, c'est facile de dire qu'il ne devait pas venir, mais un coureur comme Julien Alaphilippe, avec tous les exploits qu'il a fait au mois de juillet, la preuve, si son équipe l'ont mis, c'est qu'il pensait à un exploit. Ils ont quand même des datas. Il n'y a pas que le fait « j'ai un gros salaire », enfin, « il a un gros salaire, on le met sur le Tour », etc. Il n'y a pas que ça, sinon c'est qu'il prendrait la place d'un coureur. Donc, eux ont l'espoir que grâce au public, etc., comme dit Richard, il y ait cette étincelle et que ça partent. Maintenant, j'ai du mal à voir où ça pourrait vraiment marcher pour Julien Alaphilippe. Il a l'air de se bonifier, mais tant que la chaleur va rester, je pense que ça va être compliqué. Il a vraiment l'air de dire que c'est la chaleur. Moi, honnêtement, oui, j'aurais aimé qu'il arrête sa carrière au top avec une victoire d'étape, peu importe. Ce qui m'inquiète, c'est un peu ce que tu viens de dire, Pierre-Yves, c'est que je connais le Julien qui est toujours content, même quand il a eu des problèmes de genoux, voilà, qui a des gros problèmes. Et là, c'est plus le ton de son interview qui me gêne un petit peu et qui me fait mal, personnellement.
Je rappelle juste les résultats de cette année, de cette saison, ouais. Pour Julien. Il a fait un seul top 10 en 39 jours de course. Il a fait 5e au Grand Prix Gippingen. Autrement, c'est tout au-delà de la 10e place. Donc, il est en méforme depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu un moment dans la saison où on a senti que ça aller vraiment...
Mais la forme ou la méforme, c'est pas que des datas. C'est pas que des jambes, c'est pas que des datas.
C'est pas que des résultats.
Des fois, t'es physiquement moins bien. Des fois, t'es physiquement moins bien. Même mentalement, il y a tout qui roule et ça marche. Et des fois, t'es très bien. Mentalement, ça va pas. Et là, tout devient difficile.
On a l'habitude d'avoir dans cet after tour notre rubrique carton. Et bien voilà le carton de Jérôme Pinault.
RMC, l'After Tour, le carton.
Jérôme, c'est un carton de quelle couleur ?
Le carton, il va être, tu sais, comme l'emoji, carton rouge avec un cœur brisé au milieu. Parce que faut pas oublier quand même que Julien Alaphilippe, c'est le plus gros palmarès de cyclisme français encore en activité. Double champion du monde sur route, on l'a dit, il a gagné Milan-San Remo, l'Estrade Bianche, le Grand Prix de Saint-Sébastien. Il a gagné le Grand Prix de Québec encore l'an dernier dans cette équipe. Il a été vainqueur d'étape 6 fois, il a fait 5e du Tour. Il a fait rêver énormément de gens. Et ça déjà, faut s'en rappeler, faut jamais oublier. Il est encore en activité, il a encore la passion, il est encore affûté. Moi, j'ai un grand coup de cœur pour Julien ce soir parce que j'ai entendu l'interview et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on a connu ça, nous, par le passé, mais aussi des grands noms du cyclisme. Je vais vous en citer quelques-uns. Tom Dumoulin, Bradley Wiggins, Lauren Stendam, Tyler Hamilton, Mark Cavendish. Ces garçons-là ont fait des dépressions post-carrière et même certains d'entre eux, des dépressions pendant la carrière. Pourquoi ? Parce que quand le clown enlève le nez rouge, il n'y a plus personne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde quand ça brille, quand on est champion, quand on fait le con, quand il joue de la guitare, quand il présente le maillot de son équipe, qu'il est rock'n'roll. Mais parce que ça brille. Et toutes ces personnes-là, en tout cas, une grande partie, ne sont plus là quand ça va un peu moins bien parce que ça brille un peu moins. Ces gens-là, il faut qu'ils soient là maintenant. Parce que sinon, non seulement Julien Alaphilippe très avoir beaucoup de mal à retrouver son niveau, mais il va aussi avoir beaucoup de mal dans son après-carrière. Elle se prépare maintenant. Les gens qui ont su se mettre à sa table, il faut qu'ils l'accompagnent maintenant pour la fin du repas. Faut débarrasser la table avec Julien Lafilippe. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression, et j'ai pas de conseils à donner, parce que je le connais pas autant que Gégé. Je l'ai connu très jeune chez Constantina, dans l'équipe réserve de Quickstep. Il est pas heureux dans cette équipe Tudor. Ça se voit. Il a pas les garçons à ses côtés avec lesquels il peut parler.
D'ailleurs, cette équipe passe à travers.
Le staff n'est pas du tout le même que chez Quickstep. Moi, je pense que s'il avait la bonne idée d'y retourner pour finir sa carrière, ce serait un très très bon choix. Là-bas, il connaît tout le monde. Là-bas, il est chez lui. Même si le patron a changé, le directeur général était l'attaché de presse il y a quelques années. C'est la famille. Vous le voyez quand vous êtes avec moi. Cette équipe, elle reste fidèle à ses soldats. Et c'est ça qu'il lui faut. Je ne dis pas pour gagner des courses. Je ne dis pas pour être de nouveau le grand Julien, mais juste pour l'accompagner pour son après-carrière. Parce que ce qu'il faut maintenant, c'est que Julien soit heureux. Et aujourd'hui, on ne le sent pas heureux.
Mais ça veut dire qu'il devrait renoncer. Là, il a encore un an de contrat jusqu'à fin 2027, je crois. Il a un contrat conséquent. Hein. C'est un des plus gros contrats du peloton français. Il a plus de 2 millions d'euros par an. Ça voudrait dire renoncer à ce contrat pour retourner chez Quickstep.
Je ne dis pas renoncer à ce contrat.
Comme avait fait le CAV, qui, après la fin de son contrat, avait accepté finalement une proposition de Lefebvre, mais avec un salaire minimum. Complètement réduit. Est-ce qu'il doit faire ça ?
Je ne sais pas ce que tu en penses, Gégé, mais moi, je pense que pour son bonheur et sa santé mentale, oui, parfois, il faut faire des sacrifices et ça peut en être un. Moi, je pense que ça peut en être un. Oui.
Julien, il n'a jamais couru après l'argent. L'argent est venu parce qu'il a des résultats. Il vient d'une famille très modeste. Julien connaît toute son histoire. Il fait du vélo parce qu'il aime le vélo et il a eu, entre guillemets, de la chance d'être très bon. Maintenant, il est moins bon parce qu'il a aussi l'âge qu'il a, on a parlé de tout ça, mais il aime toujours le vélo, Julien. Donc si, je suis quasi persuadé que si vraiment il se plaît, je ne sais pas s'il se plaît ou pas dans cette équipe Tudor, on n'en a jamais parlé, mais si vraiment il ne se plaît pas dans cette équipe et que Quickstep lui tend la main, même pour beaucoup moins d'argent, si c'est ça, il va y aller. Il va y aller parce qu'il aime le vélo. Mais moi, c'est plus, justement, tu disais, Gégé, là, ça marche moins bien, il a moins de monde. Quand tu arrêtes, peu importe le champion que tu as été, n'importe quel champion, quand il arrête, il n'y a plus personne. C'est fini. Un mois plus tard, on a oublié que tu as été maillot jaune du Tour, que tu as été maillot à poids. Richard en parlera certainement mieux que moi.
On va lui poser la question.
Tu as été le champion que tu as été. Un mois après, si tu ne termines pas chez RMC, France Télé ou dans des médias, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui t'appelle, peu importe ton palmarès. Et ce qui est dur, parce qu'on va dire, il y en a qui vont dire, on a eu ça avec Steve Mandanda en foot, qui a dit, je m'ennuie. Et les gens ont dit, oh, comment tu peux t'ennuyer? Tu as gagné tout l'argent du monde, tu peux faire tout ce que tu veux.
C'est la petite mort
Mais tu n'es jamais préparé à ça. Et il y a, moi, je connais des gens très très bien, qui ont très mal fini après leur carrière. Et ce n'est pas une histoire de palmarès, parce que j'en connais qui ont eu des palmarès énormes et qui ont eu du mal à passer le cap. Et je pense que Julien aussi, sur ce tour, il se rend compte qu'il n'a pas le niveau, que c'est peut-être son dernier tour, qu'il ne va peut-être pas finir de la manière dont il voulait finir. Mais surtout, il se rend compte que c'est la fin de son aventure dans le vélo. On a tous une fin. Mais quand tu te prépares, tu dis, allez, dans deux ans, c'est peut-être dans deux ans, c'est peut-être dans un an, c'est peut-être dans trois ans. Mais d'un coup, tu es là. La porte, elle est devant toi et tu vas à la fin du tour, ça se trouve à Paris, va l'ouvrir et c'est fini. C'est un saut dans le vide parce que tu ne sais pas ce qu'il y a après, peu importe l'argent que tu as dans ton compte en banque. Et ça, personne n'est préparé à ça. Tout champion que tu as été. Et c'est là qu'il doit avoir des gens avec lui. Et moi, d'entendre son interview, je m'en fous qu'il fasse dernier aujourd'hui. Je m'en contrefous. Je veux qu'il termine le tour et qu'il soit heureux.
Vous êtes inquiet pour lui.
La réponse de Jérôme, puis on posera la question à Richard.
Moi, je suis inquiet, Christophe, et j'ai juste envie de dire à toutes les personnes. On les entend d'ici, on en a parlé tout à l'heure avec Jérôme Rantaine, qui vont dire « Ouais, mais Julien, il a fait ci, ouais, mais Julien, dans sa vie privée, oui, mais Julien, il a peut-être pas été au millimètre sur tout. » Oui, mais vous étiez là à l'époque, quand il était peut-être pas au millimètre, mais ça brillait. C'est à ce moment-là qu'il fallait lui dire « Je suis pas sûr que ce soit bon pour ta carrière. » Maintenant, c'est trop tard. Ce qu'il a besoin aujourd'hui, de gagner, je sais pas, d'argent, je sais pas, mais d'une main tendue, ça c'est sûr.
Richard, qu'est-ce que tu penses de l'échange là et de la parole fraîche, j'ai envie de dire, qu'on vient d'entendre?
Oui, vous avez tous raison dans cette analyse. Il est clair que on le sent quand on est dans une équipe, surtout quand on est en fin de carrière. C'est pas l'argent qui nous fait pédaler, hein. C'est comme on a tout connu. C'est la dynamique d'une équipe, c'est la dynamique d'un équipier, c'est la dynamique des entraînements, des stages et tout ça. C'est cette étincelle-là qui nous rend, qui nous sublime. En plus de ça, si on a le public qui est derrière, eh ben ça fait une étincelle et ça fait un grand boom. Donc, Julien, c'est clair que ben, dans l'équipe suisse, ben, peut-être il n'aime pas les chocolats, il faudrait qu'il retourne manger les croquettes de frites en Belgique. Mais c'est pour donner un peu d'humour à tout ça. Mais c'est vrai que moi, je suis passé par là. Hein. Pas parce que, mais moi, à un moment donné, j'étais très bien payé. Quand j'ai voulu revenir, je suis revenu sans aucune prétention. Et c'était ça l'essentiel, c'est de montrer qui on est sainement. Et voilà, et ça, c'est la bonne recette. Mais à un moment, mais c'est Julien, c'est un grand garçon. Et juste, il faut qu'il soit bien entouré, que ça soit dans l'équipe, mais à la maison aussi. Et si c'est le cas... il va rebondir parce qu'un champion reste un champion. On a tous le droit d'avoir un genou à terre à un moment et de rebondir. Donc là, il essaye, il pousse, il fait ce qu'il peut. Mais c'est vrai que la chaleur, mais les conditions climatiques vont changer. Ça, c'est sûr. On va rentrer dans un Tour de France un peu plus vieux, même si la chaleur est là. Mais la pluie, la fraîcheur, la montagne va arriver. Et Julien, c'est sûr qu'il va retrouver. On lui souhaite en tout cas le vent d'eau
qui
va
arriver. Ouais.
Ouais.
De toute façon, Julien, il a besoin de deux choses, lui. C'est d'un vélo et d'amour. Qu'il se sente soutenu,
bien sûr.
Partout.
Soutien.
Partout. C'est-à-dire, je ne dis pas amour personnel, ça, je ne me mêle pas du tout de sa vie privée. Il a l'amour du public, déjà, on sent, Maria l'a dit, à l'applaudimètre, c'est peut-être encore le coureur le plus applaudi. Maintenant, je vais me répéter, on va répéter ce qu'a dit Gégé, mais il a besoin de soutien aussi de gens peut-être qui étaient là au début, qui sont un peu partis maintenant, qu'il est dans le dur, etc. Mais Julien, il aura toujours cette flamme pour le vélo, toujours cette flamme pour le Tour de France. C'est pour ça que je vais, comme d'autres coureurs, je ne vais jamais enterrer Julien sur le Tour de France, même s'il nous montre, s'il nous a quasi rien montré, c'est même plutôt inquiétant ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, il faut être honnête, même si on l'aime bien, mais je ne vais jamais l'enterrer ce gars-là sur le Tour de France, parce que si à un moment il a un brin de vie, il va y aller, même s'il est à moitié mort, il a un brin de vie, il va y aller, et si là il y a le public, si là il y a des soutiens qui reviennent un peu, ceux qui vont un peu au fil du vent comme ça, s'ils reviennent un petit peu, d'autres plutôt, même des soutiens plus fidèles que ça, je pense qu'il peut repartir. Peut repartir, bon. Et j'y crois.
On va surveiller évidemment la suite de ce Tour de France pour Julien Alaphilippe. On avait prévu un petit débat autour du changement de calendrier éventuel, mais on l'aime tellement Julien Alaphilippe qu'ah bah voilà, on a débordé, on va se garder ce débat pour
le faire
pour
demain, les jours qui viennent.
On va avoir de la place, ouais. Très certainement demain, ça sera encore une journée pour les sprinteurs. On entre dans notre dernier quart d'heure de cette after tour avec les auditeurs Jérôme Coppel, Jérôme Pinault et Richard Virenc. Vous avez les auditeurs qui vous posent des questions et c'est David qui nous rejoint ce soir. Bonsoir David.
Bonsoir, bonsoir à tous les quatre.
David. Bonsoir David.
David,
bonsoir.
On évoquait la carrière, la fin de carrière de Julien Alaphilippe. Qu'est-ce que tu souhaitais évoquer avec nos consultants?
En fait, moi j'ai pas mal... je souhaitais évoquer Pogacar, j'ai pas hésité avant d'appeler parce que... À vrai dire, je ne me sens pas trop crédible dans la mesure où je n'ai pas vu une seule image de ce tour. Voilà. Je n'ai rien vu de ce tour. J'ai pas mal lu, j'ai écouté, mais je n'ai rien vu. Pas d'image, rien du tout. Même les directs à la radio, j'ai du mal.
Mais c'est pas sympa.
C'est... mais bon, c'est aussi la raison de mon appel. En fait, c'est de dire que Pogacar, en fait, j'ai l'impression qu'il largue tellement tout le monde qu'il en vient à éloigner, à dégoûter de ce sport des gars comme moi, qui ont la cinquantaine, longtemps, très longtemps passionné de vélo, de ce mois de juillet, qui était sacralisé sur les bords de la route, dans la caravane, etc. Admiratif et respectueux de l'effort cycliste, hein, aussi au niveau amateur, où je suivais des courses et tout. Mais là, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, à cause de lui, à cause de son entourage, de son directeur sportif qui fait partie des heures les plus sombres du vélo pour moi, je ne ressens plus aucune émotion en fait. Plus aucune émotion en regardant le tour. Comme je dirais sur les autres courses, parce qu'en plus, Pogacar, il court de février à octobre, et il gagne de février à octobre. Donc voilà, donc je me dis que voilà, il y a plus d'émotion. Et je me dis que quand il y a plus d'émotion, ben, qu'est-ce qui restera comme souvenir dans la transmission aussi? Qu'est-ce que je peux transmettre? Donc voilà, je lisais un papier ce matin dans le journal, dans un journal suisse, justement un petit peu sur ce sujet, sur
dans le temps,
sur l'émotion dans le temps, ouais. Et avec une question de savoir s'il n'est pas en train de tuer à petit feu le tour. Moi, ça fait un petit moment que je le pense déjà. Et donc, voilà, ma question, je vous la retourne. Est-ce que vous, notamment les anciens cyclistes, vous connaissez tous ça par cœur depuis très longtemps, est-ce que Pogacar, il n'est pas en train de tuer à petit feu ce Tour de France qu'on a longtemps pensé indestructible?
Lequel se lance, messieurs? C'est la crise de la cinquantaine, là, pour David. Il a décroché. Richard, tu veux y aller?
Allez. Alors, moi, je peux dire que je vous rejoins dans ce que vous dites. Sans regarder les images, sans regarder les trucs, c'est clair que ça transpire comme ça, que l'ogre Pogacar mange beaucoup de choses à toutes les saisons de l'année. Ça dérange beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même. Il cannabinise un peu le cyclisme. Et forcément, les autres passent au travers et on en a toujours un peu, même s'il est champion, hein, parce qu'il attaque de loin, il gagne au panache, hein, Pogacar, mais de trop fort. Il faudrait lui mettre une catégorie où, comme on est en voiture, lui mettre un poids en plus. Parce qu'il est trop fort, il a trop de watts que les autres. Voilà, de trouver des. Mais c'est vrai, je vous reconnais que ça. Alors on essaye de trouver, nous, des artifices, pas des artifices, mais des coureurs qui font d'autres classements ou d'autres perfs ou des podiums pour se dire, ah, il est quand même passionnant. Tout. Heureusement qu'on a des petits Français qui poussent à la porte, que ça soit Paul Sexas à 19 ans, tout le monde l'interroge et tout le monde regarde parce que ça attise un peu la performance du Français parce qu'il a 19 ans et parce que c'est un Français et parce qu'il est troisième, comme Lini Martinez qui est là aussi. Heureusement qu'ils sont là parce qu'ils seraient pas là, ça serait compliqué. Mais je vous rejoins un peu, mais de toute façon quelque part on n'a pas le choix, hein, on va pas l'éliminer, Pogacar. Il va, alors, ou le destin du Tour, et plus tard on verra ce qui se passera, mais pour l'instant c'est comme ça et il faut faire avec, et malheureusement c'est comme ça, je crois.
Jérôme Coppel.
Moi je te rejoins, David, parce que je suis le premier à dire souvent que les courses sans Tadej Pogacar sont plus intéressantes. Alors je ne vais pas prendre en exemple le dernier de Giro parce que Vingegaard l'a aussi dominé, mais en fait nous ce qu'on veut au final sur une course de vélo, c'est vraiment du suspense. Mais on ne peut pas non plus demander, alors déjà on ne peut pas faire payer à Tadej Pogacar le fait que Giannetti soit son manager. Ça c'est soit on exclut ceux qui ont eu des problèmes de dopage et ils n'ont plus le droit d'être à la tête d'une équipe. Si Giannetti est là, il a le droit d'être là, et je ne suis pas pote du tout avec Giannetti, mais s'il est là, il a le droit d'être là. On ne peut pas faire payer à Tadej Pogacar le passé de ses dirigeants.
Sauf si double à gauche.
Voilà.
Ouais. On a crête.
Non, mais je te rejoins complètement, David, là-dessus. On ne peut pas non plus demander à Tadej Pogacar de freiner parce qu'il est plus fort que les autres. Et je vois bien où on va aller sur la question du dopage. Le dopage, là, actuellement, si moi, quelqu'un vient et me donne des preuves que Tadej Pogacar ou que son équipe
triche,
on le condamne fermement. Maintenant, on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuves, sans rien. Il domine, et moi, je suis le premier, David, à me faire chier sur l'étape du Tourmalet, parce qu'une fois qu'il est sorti, tu sais qu'il a gagné. La preuve, on a dit à maintes reprises, mais Tadej Pogacar, on s'en occupe plus, on sait qu'il a gagné le Tour à la 7e étape, ou je ne sais plus la combien c'était, et on va s'occuper de la 2e place et de la 3e place, surtout parce qu'il y a Paul Sexas. Mais moi, je suis un amoureux général du vélo et de toutes les courses, donc j'essaye d'enlever ce qui pourrait me parasiter, de regarder la perf, de regarder les autres, de regarder les comportement de tous les coureurs, mais je suis un peu comme Richard, je te rejoins sur le fait que c'est un peu, quand il y a Tadej Pogacar, c'est un peu ennuyant, mais on a tous connu, il y a toujours eu des dominations. Il y a eu, moi personnellement j'ai connu la Sky avec Wiggins et Froome, les courses en plus d'être dominées, elles étaient chiantes et dans le peloton et derrière un écran. Tadej Pogacar, on va au moins lui reconnaître qu'il fait du spectacle, même si c'est presque trop et qu'il n'y a personne qui peut suivre, mais il a au moins ça. Donc en fait, c'est pas trop le juste milieu qu'il a trouvé, mais on peut pas le condamner pour ce qu'a fait Giannetti et les autres et lui demander de ralentir parce qu'il est trop fort.
Mais notre confrère du temps, Jérôme Pinault, ce matin, Pierre Carré, n'apporte pas de preuve dans son papier, mais il dit carrément il se fera pincer dans quelques années. C'est compliqué.
Ben, il se fera pincer dans quelques années. Comment ? Par qui ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Qui peut l'affirmer ? Pierre Carré écrit ça. On adore Pierre et on le salue. Maintenant, c'est peut-être... Il essaye de traduire une espèce de formulation de frustration.
Non mais...
Mais je rejoins David dans quelque chose. C'est peut-être qu'aujourd'hui, il ne vaut mieux plus regarder, mais lire, écrire et écouter. C'est peut-être mieux. Parce que le Tour de France, il y a un très beau papier. Je peux vous en lire une partie aussi, écrite sur une réponse faite avec Philippe Brunel. Vous vous rappelez de Philippe Brunel, ton ancien confrère de l'équipe, qui a écrit un très très beau papier qui dit « Je lis toujours ». Mais je ne regarde plus le Tour de France à la télévision. Le cyclisme va bien avec les choses écrites. Les plus grandes choses écrites sur le cyclisme ne l'ont pas été par des écrivains, mais par des journalistes. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont vécu, qui l'ont écrit sur le vif, écrit sur un coin d'une table. Ce n'est rien d'autre qu'une émotion, qu'un long voyage. Tu flottes comme dans un paysage cotonneux. Tu traverses des villes, des paysages au ralenti. Au bord des routes, les gens t'adressent des signes d'amitié et de sympathie. Tu vis le Tour, c'est comme dans un rêve. Un jour, Chani m'a dit, des fois je me demande si à 60 ans il est normal d'avoir passé autant de vie à écrire sur le cyclisme. Parfois j'ai des regrets, des rejets, des moments de recul. Et puis c'est comme la fièvre de Malte, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est sa fièvre à lui, il dit. Ce n'est pas un sport, c'est un genre. Il y a quelque chose d'existentiel, c'est un peu comme en cinéma. On va y chercher ce que l'on veut y trouver. C'est un peu ça le Tour finalement. Et oui, la domination, mais ça a été vrai par le passé. Si on remonte à la dernière fois qu'on a eu un peu de suspense, c'est peut-être Vincenzo Nibali il y a 12 ans. Et puis avant, c'était peut-être Cadel Evans. Vous êtes sûr, vous, que Cadel Evans et Vincenzo Nibali étaient à la flotte ? Moi, je ne sais rien non plus. Par contre, ce que je sais, c'est que le Tour raconte beaucoup plus qu'une course de vélo. Le Tour, c'est des aventures. On a parlé ce soir 20 minutes de Julien Lafilippe qui était à la traîne à 7 minutes derrière le peloton. Ça, c'est les émotions du Tour. On le lit, on l'écoute. On peut ne plus le regarder, mais on ne peut pas arrêter d'aimer le Tour.
David, est-ce que tu as eu une part de réponse et ça t'a redonné l'envie d'écouter RMC?
Non, je pense que j'ai vraiment du mal à regarder et à écouter. Mais bon, pour continuer la métaphore là, sur les anciens grands journalistes, j'espère vraiment qu'il y en a un jour qui va porter la plume dans la plaie. Parce que là, parce que moi aussi, je me demande si vraiment un jour, ce que je considère être une supercherie sera mis au jour, comme l'a été auparavant Armstrong.
Armstrong.
Mais voilà, quoi. Et voilà, comme disait Albert Londres, il va falloir porter la plume dans la plaie.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais pour le faire, il faut avoir quelque chose en face. Il faut avoir des preuves. Et on a. Je pense que tout le monde doute, mais si tu n'as pas de preuves, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu fais? Et imagine. Fais le switch dans ton cerveau, imagine le truc complètement inverse, qu'il soit complètement à la flotte ce mec-là. Et là, on t'accuse quelqu'un depuis des années qui a peut-être rien fait. J'en sais rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais si tu dis un journaliste ou peu importe, si quelqu'un a des infos qu'il y a, il faut qu'il fonce. Pour le vélo, il faut qu'il fonce. Mais il faut avoir des preuves en face, il faut avoir quelque chose en face.
D'ailleurs, on a eu les mêmes doutes avec Chris Froome pendant des années.
J'ai deux questions à te poser.
Il nous reste deux minutes, vas-y.
Une très rapide, tu parles de supercherie, tu parles du Tour de France comme étant une supercherie et que tu dis qu'il faudra un jour en parler. Est-ce que tu votes, David? Tu as ta carte de vote? Tu vas voter?
Ah, bien sûr.
Eh bien là aussi, c'est une supercherie. On est baladé tous les jours par des gens qui prennent pas de décision et qui nous disent ce qu'ils vont faire et qu'ils font pas. Donc arrête de voter aussi. Tu regardes pas le Tour, va plus voter. Et la dernière chose, c'est que si Pogacar arrête sa carrière ce soir ou demain, à la fin de ce Tour, il dit j'arrête. Derrière, il y a un mec qui arrive qui s'appelle Paul Sexas. Il va gagner en 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tu regarderas ou pas?
Je ne sais pas. J'en sais rien. Je sais pas.
Si Tadej Pogacar s'appelait Paul Sexas ou Jean-Pierre ou Jérôme Coppel, ben les gens regarderaient et auraient peut-être moins de soupçons. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Dès qu'un étranger domine, c'est pas normal. Quand un Français gagne, c'est un peu plus logique.
C'est aussi la particularité de ce Tour de France, de ce sport qu'on adore, le cyclisme, c'est qu'on est parfois dans nos contradictions et c'est difficile, effectivement. Et on comprend, David, que ça soit difficile.
Tu le rappelles quand tu veux, David, on adore débattre avec toi.
Merci pour cette chaud, de psychothérapie.
Ouais, c'était un bon moment avec
on a ça eu fera 150 heure. Balles par contre.
Fois 4.
Merci beaucoup David. Et je vous garde mes consultants juste un instant, il nous reste une petite minute. Et ben comme d'habitude, demain votre pronostic. Tiens, on commence avec toi Richard. Est-ce que Tim Merlier va l'emporter? Est-ce qu'on va encore avoir du Warren Schultz qui est dur à prononcer pour les commentateurs, ou est-ce qu'on va avoir enfin du Jasper Philipsen?
Ah, je dirais que Philipsen, il mériterait vraiment de l'emporter parce que il met l'équipe et par rapport à ce qu'il a fait l'année passée et les autres années, Philipsen.
Allez, Philipsen pour Richard Virenc. Jérôme Coppel.
Je me mets dans la roue de Richard. Je l'ai mis aujourd'hui. Je lui fais encore confiance pour demain. Philipsen.
Finir par y arriver. Jérôme Pinot.
Demain, c'est arrivé en courbe à droite. Kessbol va lancer, mais cette fois, Olaf Koy sera dans la roue. Victoire d'Olaf Koy.
Olaf Koy, très bien. Bah, moi, je vais rester sur Tim Merlier.
Oui, bah, toi, tu prends les risques. Hein. Tu fouilles.
Merci, messieurs. Merci, élément, Richard. Hein, merci, les Jérôme. Merci, Christophe Cessieux. L'After Tour, c'est demain. Écoutez, évidemment, 100% en route, la radio digitale. Et on se retrouve, bien sûr, sur RMC, 14h, 18h. Demain, ciao.
RMC, l'After Tour.